Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Avant d'évoquer la suite de ce que ça va mener, est-ce que vous avez des questions dans la salle pour...
Ça toucherait à la suite. Alors, c'est quoi l'engagement, quand tu dis cette phrase, Chantal,
oui.
En quoi ça constitue un engagement? Comment on mesure ça? À quel horizon? Comment on mesure qu'il est atteint, pas atteint? Quelle est la trajectoire pour l'atteindre? Ça touche à la suite. Enfin,
je voulais garder cette fin pour la conclusion et passer à la suite. Mais c'est ça, on trouvera une autre transition.
Il y a 6 mois, on m'aurait dit est-ce que tu signes? J'aurais dit non. Parce qu'il n'y avait rien qui sortait. Parce que c'est quoi? Ils ont quand même, et comme tu dis, ils ont quand même intégré des trucs. Il y aura des scénarios qui iront de je ne sais pas quoi. Mais il y aura des scénarios. Alors qu'on ne devait pas en avoir au début. Hein. Donc c'était pas l'approche équilibrée, le lancement de l'approche équilibrée, c'était pas mentionné. Le fait qu'on cause du couvre-feu, c'était même pas évoqué. Donc on peut dire quelque part quand même qu'ils ont avancé. Mais maintenant, moi je crois qu'ils vont beaucoup. Enfin, je pense par exemple quelqu'un comme la région, ils vont procrastiner parce que si demain on le demandait, je suis sûre qu'on obtiendrait l'interdiction des vols de nuit. Parce que vraiment, là, ils se sont tous engagés. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut freiner les cas de fer. Il faut prendre son temps. D'ailleurs, Mme Sens nous l'a dit. Oh, c'était bien ces ateliers, on a pris notre temps. Donc, on ne peut pas faire autrement que de lui redire en séance, vous avez pris votre temps, mais là, il faut aller vite maintenant. Donc, je crois qu'ils vont essayer de gagner du temps. Et donc, en gagnant du temps, ils nous en feront perdre et on perdra. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Ou ça va vite, c'est rondement mené. On lance l'approche équilibrée. On y met tout ce qu'il faut dedans. Ou nous, une fois de plus, on ne rentrera pas dans ce truc-là.
Ça veut dire quoi, rondement mené? Il faut des...
On a un comité permanent d'une commission consultative de l'environnement qui se tient le 29 juin. Il faut qu'à ce jour-là, ils disent, ça y est, c'est officiellement lancé l'approche équilibrée. On prend les rendez-vous pour septembre. Donc, si on a des dates, on a choisi... Alors, il y a déjà un cahier des charges qui a été fait pour mener cette approche équilibrée, mais ce cahier des charges a été établi par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Parce qu'il faut quand même vous dire qu'on a eu une petite victoire. On a réussi, en avril 2022, à obtenir du Conseil d'État qu'il invalide la Direction Générale de l'Aviation Civile comme étant celle qui pouvait mener les études de l'approche équilibrée. Voilà. Le Conseil d'État a dit... Vous êtes mauvais parce que vous n'êtes pas indépendant, parce que plus il y a l'avion qui vole, plus vous êtes intéressé, notamment par l'intermédiaire des redevances de route, plus vous avez des sous, donc vous n'êtes pas indépendant. Et c'est nous qui allons porter l'affaire et c'est nous qui avons gagné. Et du coup, maintenant, qui est-ce qui a l'approche équilibrée entre les mains? Ce sont les préfets. Alors, si je reprends ce que j'ai dit à FR3, changement d'herbage réjouit les veaux. Mais on n'est pas des veaux. Donc, on va bien regarder ce que font les préfets. Voilà. Et donc, si ça ne nous convient pas, ben on ira encore aussi au tribunal pour dire le préfet, il n'est pas indépendant. Parce qu'il écoute trop la DGAC.
Et si vous n'avez pas d'action rapidement proposée, de date, vous ne signerez pas ce...
Si c'est pareil, si on voit que ça va prendre du temps, qu'ils veulent gagner du temps, etc., on ne le fera pas. Mais en l'état, aujourd'hui, moi, je suis d'accord pour signer. On peut en discuter avec les petits copains. Je vous dis, si on voit que, de nouveau... Voilà, c'est gagner du temps, voilà.
Non, mais je crois que Chantal a raison. Il n'est pas question qu'on serve de caution à quoi que ce soit. Ouais. Il n'en est pas question. Or, c'est le risque. Maintenant, comme nous l'a dit quand même le secrétaire général, c'est un process, la fameuse, j'arrive jamais à le retenir encore.
L'approche équilibrée.
L'approche équilibrée. C'est un process dont on peut sortir à tout moment, hein. Donc, si nous signons ce document que c'est mis en place, mais que ça ne nous satisfait pas, à tout moment, on peut s'en retirer.
Ah oui, ils vont faire cocorico le jour où on va signer, et le jour où on partira, voilà. Ce sera quand même très discret. Hein.
Certainement, il y aura peut-être un peu moins, encore que... vous pouvez nous faire confiance pour faire un peu un battage médiatique, et puis j'espère que Médiacité relaiera, si jamais c'était le cas. Mais... Bon, voilà, on peut en tout cas quitter le process à tout moment, et
alors,
c'est quand même un élément.
Quand même, juste un éclairage complémentaire. Nous, on va parler à l'intérieur du PAD, parce que le PAD, je vous l'ai dit déjà, est un collectif d'organisations assez diverses, donc on n'a pas de prise de position sur est-ce qu'on va continuer à participer à cette activité-là. Moi, personnellement, je ne peux pas m'empêcher, peut-être à une différence de mes petits camarades, d'être, même si Chantal l'est aussi largement, un peu sceptique sur la réelle capacité d'ouverture par rapport aux objectifs que j'ai personnellement, en tous les cas, hein, dans mon combat. Par exemple, un petit exemple, tu disais tout à l'heure, les trucs bidons. Moi, j'en ai un. La fameuse ambition 3 s'appelle « Encourager le développement économique du territoire ». Ça, c'était la formule d'origine. Alors moi, à Grenade-sur-Garonne, je vois le mot « économique du territoire », « développement économique du territoire ». Je dis « Putain, ils n'en sont même pas au point de parler de développement durable, par exemple. » ou de développement soutenable, enfin je sais pas, un peu la novlangue des gens modernes par rapport à la croissance verte et toutes ces choses-là. Et donc, ils ont accepté, ils ont marqué, encourager le développement économique durable du territoire. Mais franchement, mon avis, c'est que c'est du flan. Enfin, on ne met pas la même chose derrière. Hein, et tout. Et l'objectif 4 de cette ambition 3, je vous donne un parfait exemple de langue de bois quand même, anticiper les mutations économiques et promouvoir la formation au métier de la transition écologique et économique. Mais je dis ça vachement bien parce que un des travaux qu'a fait le PAD, hein, le rapport que tu as piloté, Bruno, c'était un des axes de travail, c'était la transition écologique et comment imaginer des emplois alternatifs à ceux de l'aéronautique dans l'hypothèse justement où tout ne serait pas rose demain pour l'aéronautique. Ce genre de formulation et la manière dont j'ai ressenti ces personnes-là, les acteurs économiques, quand ils ont parlé à chaque fois de diversification de l'économie toulousaine, c'était vers le spatial, vers l'intelligence artificielle, vers les bouquets de satellites et tout. Pas un moment, ils m'ont parlé de rénovation énergétique des bâtiments, d'emploi dans l'agro, dans le développement d'une agriculture raisonnable et sans intrants chimiques, ils ont passé des meilleurs, l'agriculture qu'on veut tous pour demain. Pas un moment, ils n'ont abordé ces sujets-là. La diversification pour ces gens-là, c'est toujours plus de technologies, toujours plus de voitures connectées, toujours plus de puces, toujours plus de ce que c'est pas. Donc, et je pense que le chemin à parcourir avec l'ensemble des gens qui composent cette technostructure économique et politique toulousaine, c'est un marathon qu'il y a à parcourir, c'est pas un sprint. Voilà.
Question à
la
salle, monsieur. Et après,
oui. Je reviens sur un élément que Chantal tu as mentionné tout à l'heure. En fait, si j'ai bien compris, ces ateliers, enfin en tout cas cette initiative institutionnelle qui a été mise en place, ça a été finalement mis en place aussi parce qu'ils ont eu l'impression, le sentiment, je crois que la phrase que tu as dit, qu'ils perdaient l'assentiment de la population. Mm-hmm. C'est ça qui les a poussés finalement à vous inclure dans un processus. Et ma question, c'est où on en est aujourd'hui? Et est-ce que, quelque part, parce que la perte de l'assentiment de la population, c'est un levier qui est extrêmement puissant justement pour pousser... Les problématiques qu'on cherche à développer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se couper justement de la population en rentrant dans une démarche institutionnelle, de se couper de la population et de perdre finalement ce levier-là pour avancer plus loin dans les revendications qui sont portées par les différentes associations?
Ben, je ne suis peut-être pas la seule à être obligée de à pouvoir répondre à cette question. Je ne sais pas quoi vous dire.
Des niveaux différents parce que le pacte. Ben, vous avez entendu des phrases, hein. C'est du blabla, quoi.
C'est du blabla.
Certaines
voilà.
phrases, c'est du blabla. Notamment celle qui a été citée pour les riverains. Voilà. Autant, à la clôture, ils engagent la franchise du Bray.
Voilà.
C'est très cadré au niveau européen, national. On est dans les instances avec Chantal et aussi au niveau du Sécu. On travaille sur les dossiers. Et c'est une procédure très cadrée qu'on va suivre à chaque étape, qui va durer environ 18 mois. Donc, il y a deux choses en parallèle. Il y a mettre des gens autour de grands principes où on a bataillé sur le moindre mot pour qu'au moins ce soit un peu mieux sur le papier. Et en même temps, on demande qu'aussi il y a des choses concrètes qui se passent. Donc il y a eu un engagement à la fin de l'approche équilibrée où là, il y aura une démarche dans laquelle on sera. On a une bataille aussi pour qu'ils arrêtent de construire des lotissements sous la courbe C du PEB. Donc là, on a eu plusieurs rencontres avec le DDT là-dessus. On discute qui va prendre le contrôle de l'égalité là-dessus, qui n'avait pas avant. Donc on voit qu'il y a des sujets qui s'ouvrent. Donc ils savent aussi qu'on est... D'un côté, on discute, mais d'un côté, on veut du concret, parallèlement, sur certains sujets qu'on a identifiés. Et on a des signes qui nous montrent qu'il y a peut-être du concret qui va se déclencher.
La question, c'était, est-ce que vous risquez pas de perdre le...
Il y a deux choses en parallèle. C'est-à-dire que même si on était encore à discuter avec le groupe des 40, etc., pour autant, on est aussi dans les démarches particulières... De l'approche équilibrée, de batailler pour qu'il n'y ait plus de lotissements qui soient construits sous la courbe C du PEB, sur un certain nombre de sujets où là, on a des réunions qui avancent et là, on leur colle au cul qu'il faut que ça avance et que ça se concrétise. Et ils savent très bien que si on ne voit pas de concrétisation là-dessus, ce truc-là, on claquera la porte, ils le savent aussi. Ils le savent. Que là, c'est d'où l'intérêt qu'on ait fait Front Uni jusqu'à présent, c'est de dire ok, là, mettez un minimum dedans, mais derrière, nous, ça ne nous suffit pas d'avoir des belles implantations. Il nous faut aussi du concret sur certains enjeux. Ça a été une surprise pour nous que l'approche équilibrée soit annoncée par le préfet, qui lance. Alors, bien sûr, maintenant, ça va devoir se suivre. Mais donc, je dirais que c'est un mélange des. Un mélange des deux.
Moi, je voulais juste dire que, rassurez-vous, il nous a quand même fallu 10 jours pour comprendre les phrases, déjà. Donc, parce que c'est vrai que c'est du jargon, mais là encore, nous, notre préoccupation, on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre à nos conseils d'administration, à nos adhérents. Moi, au niveau de France Nature Environnement, je vais faire un compte-rendu le plus précis et détaillé possible, sans perdre mes interlocuteurs quand même, mais c'est un élément extrêmement important. Nous avons des comptes à rendre et ça sera après la décision qui sera prise que nous rejoindrons ou non le process.
Mais on reste libre, même si on était d'attente, on reste libre dans une réunion sur un sujet de dire « mais non, ça, on n'est pas d'accord ». Enfin, je ne pense pas que ça vous enlève de liberté.
Je crois qu'il y avait une question au fond. Oui.
Oui, j'aurais voulu savoir s'il y avait des élèves et des CCI qui sont plus sensibles aux arguments économiques, aux arguments écologiques. Comment se fait-il qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a une convergence entre les intérêts économiques et les intérêts écologiques en particulier? Je voudrais dire que si Toulouse ne doit pas avoir un destin comme celui de Détroit, qui est une grande friche industrielle, depuis que l'industrie automobile s'est cassée la gueule aux États-Unis.
Qui est en train de renaître.
Si on ne veut pas que Toulouse ait ce type de destin-là d'écroulement économique, il faut bien une reconversion possible, en particulier de tous les savoir-faire. Parce que tous les gens qui travaillent à Airbus, qui fabriquent des avions, ça fabriquait beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a eu une époque après la crise pétrolière des années 70, où ils ont fabriqué les frigos Frigia Vierge, si je me souviens bien. Et donc, c'était une politique industrielle. Et ça a permis à toutes ces personnes qui savaient faire plein de choses de continuer à travailler, à avoir un outil industriel qui fonctionne, qui soutenait l'économie locale. Et moi, il me semble que vu le nombre de besoins qu'on a en éolienne, en panneaux solaires, enfin, il y a une reconversion industrielle évidente, massive que l'on doit faire. Et donc, on a un outil industriel majeur qui existe. Comment se fait-il que ni le MEDEF ni le CCI ne soient sur cette piste? On pourrait aller lancer là-dessus.
Moi, je pense que on ne sait pas tout ce qui se passe au sein du MEDEF, au sein de la CCI. Parce que parfois, j'ai l'occasion d'échanger en privé, j'allais dire, pas en réunion, mais en privé. Et souvent, je suis surpris. Parce qu'ils n'ignorent pas tout ça, tout ce que vous venez de dire. Ils ne l'ignorent pas. Forcément, si on est à la tête d'une entreprise, si on est là. Enfin, on est forcé de devoir aussi intégrer tout ça. Sauf que pour le moment, il y a un décalage qui est très grand entre ce que certains peuvent, pas tous, ce que certains peuvent penser déjà, et ils ont commencé à amorcer une réflexion, et puis les postures qu'on va continuer à adopter, parce que je suis le représentant du MEDEF, je suis le représentant de la CCI, et je dois donc défendre telle ligne, et je n'ai pas d'autre mandat, je n'ai pas de mandat autre que celui d'assurer cette défense. Mais honnêtement, je pense qu'il y a des tendances et des courants à l'intérieur déjà de ces instances.
Il y a de l'inertie, quoi.
Il y a un temps d'inertie qui risque d'être malheureusement important.
Et du côté des représentations syndicales qui étaient présentes, enfin, il n'y avait que FO, a priori.
FO et la CGC. Et franchement, on va en clore le sujet, ça ne va pas durer 13. On les a pas vus. Le premier jour, le gars de FO a dit « Moi, je suis là pour défendre les salariés. » C'était à la Belge.
Ils étaient en
et depuis, FO et CGC, abonnés absents. On n'a même rien à vous dire.
CGC
et FO.
Oui.
Ils n'étaient pas là, donc n'en parlons pas.
Ça règle la question.
Ouais.
Une autre,
ça veut tout dire.
Un autre ouais, élément de réponse sur la...
Juste ajouter deux choses par rapport à ça.
Maxime Léonard...
Je suis du PAD, excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard. Je pense qu'il y a le modèle économique aussi qui fait que bah, tant que ça tourne, quelque part, pourquoi prendre des risques, en fait. Donc voilà, si l'économie... l'aspect économique des choses... permet d'alimenter la machine quelque Merci. Part tant qu'il n'y a pas de contraintes et d'incitation à aller vers dans un autre modèle, ils n'en sentiront pas. Et un domaine qui est assez éclairant aujourd'hui et qui subit déjà des contraintes, contrairement à l'aéronautique en termes de changement de technologie, c'est l'automobile. Et en fait, on voit que bon, c'est principalement une électrification du parc automobile. Et qu'est-ce que font les constructeurs automobiles avec leurs sous-traitants ? Ben, c'est pas de convertir les usines, notamment des sous-traitants, c'est de délocaliser. Mmh. Vous voyez ? Donc en fait, ils vont utiliser, ils pourraient utiliser ce changement en fait de perspective pour eux à leur bénéfice en délocalisant. Voilà. Puisqu'il y a des coûts et des risques associés à cette reconversion, ben, un moyen d'y arriver, c'est de délocaliser. Parce que ce qui compte, encore une fois, c'est le profit quelque part, c'est l'argent.
Monsieur ?
Oui. Je voudrais juste expliquer qu'il n'y a pas... Il y a Blagnac, évidemment, avec toute l'émission, tout ce que l'on a, tout ce que vous avez exprimé. Il n'y a pas que ça. Moi, je siège là pour les Amis de la Terre dans trois autres CCE, donc, qui sont de Lasbord, de Muret et de Francazal.
Les CCE, c'est...
Les consultations consultatives de l'environnement pour tous ces aérodromes. Juste pour vous donner une idée, à Lasbord, c'est quand même 60 000 mouvements par an, et avec une densification, on en a parlé, entre Balma, Saint-Aurens et Toulouse, la Terrasse, des gens qui sont soumis de plus en plus à ces nuisances aériennes. Je ne vais pas m'étendre sur le cas de Lasbord. Le cas de Muret est assez particulier, avec là aussi des passe-droits en permanence. Et donc, l'exemple qui est donné par Blagnac et les passe-droits que l'on a sur Blagnac, il faut voir qu'il y a les trois aéroports autour de Toulouse qui en profitent largement. Et je voudrais quand même revenir sur le cas de Francazal, parce qu'il est quand même très symptomatique. Francazal, en 2008, je m'excuse de faire un petit peu d'histoire, les militaires sont partis, puis c'est un terrain militaire, ont abandonné, entre guillemets, aux civils, le terrain militaire de Francazal. Du coup, on a eu une CCE à la préfecture pour rediscuter du plan d'exposition au bruit de ce secteur. Et là, les Amis de la Terre et c'est assez curieux quand même, et l'armée étaient d'accord pour avoir le PEB le plus large possible, c'est-à-dire protéger le maximum de population, parce qu'on n'avait aucune idée de l'avenir de ce terrain. Et c'est là toute la duplicité des élus qui, eux, se sont battus à fond pour avoir le PEB le plus petit possible, le moins contraignant possible. Bien. En vote en CCE, c'est l'armée et les aviateurs accompagnés qui ont eu le truc le plus large possible. 6 mois après, il y a eu une révision portée par les élus au niveau de la préfecture et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un truc très réduit, et ils ont pu construire dans le comté de Porter-sur-Garonne, Fonsorbe et compagnie. Bien. La situation après elle est escalée. Vous avez vu ce qu'est devenu l'armée entre-temps, Francazal, qui est en train de reprendre de l'activité. Une activité militaire, parce que bon, bah, les choses sont comme elles sont aujourd'hui. Il y a quand même pas mal d'avions. Aujourd'hui, c'est l'ordre de 5000 mouvements par an. C'est pas beaucoup par rapport à Blagnac. Mais ce sont quand même des gros avions qui font beaucoup de bruit avec beaucoup d'exercices et qui volent très bas. Et avec des populations qui maintenant sont concernées, notamment du côté de Françorme. Donc, pour dire que la tâche d'huile que l'on a de Blagnac s'étend là-dessus. Et ce que je veux insister là-dessus, c'est surtout la duplicité des élus. C'est-à-dire qu'ils vous disent une chose en réunion. Enfin, ils vous disent une chose, même s'ils sont battus en réunion au niveau de la commission, ils vont faire le forcing pour que, de toute façon, ils arrivent à leur fin. Et leur fin, c'est quand même d'arriver à avoir des lotissements partout et de l'urbanisation partout, quand même. Donc, là-dessus, c'est les mêmes personnes. En 2008-2015, ça ne bouge pas beaucoup, vous savez, là-dessus. Mais je voulais quand même attirer l'attention sur Franck Hazan, qui est quand même un cas assez symptomatique. Vous avez vu peut-être en début de semaine sur la dépêche. À toutes les réunions, les CCE, j'ai posé la question de savoir si sur Franck Hazan, donc maintenant c'est l'administrateur privé qui gère ce truc-là, allait développer l'aviation d'affaires. Et à toutes les réunions, je pourrais vous montrer les comptes rendus, ça a été un non, il est hors de question de développer l'aviation d'affaires sur Franck Hazan. En début de semaine, sur la dépêche, vous avez vu que donc le gestionnaire va mettre en place une douane et un accueil pour l'aviation d'affaires sur Franck Hazan. La question, ce n'est pas une question, ce que je veux dire, c'est la complémentarité des aéroports qu'il y a sur Toulouse, fait qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ne pas obtenir un gain sur Blagnac qui va se faire en définitive au détriment d'autres populations, et notamment celles de Franck Hazan. Ce que je veux dire là-dessus, c'est une remarque, c'est que c'est un tout aujourd'hui, l'aéronautique, au niveau de l'agglomération toulousaine.
C'est pour ça qu'on a fait une petite manifestation européenne, nationale, etc., pour demander le plafonnement de tous les aéroports, hein, avec des couvre-feux sur tous les aéroports. Parce que c'est fini de... Par exemple, à Amsterdam, Schiphol, ils ont réussi à obtenir un plafonnement. Mais si c'est pour remettre un peu plus sur Roissy, ça ne vaut pas le coup. Donc, on a dit, Roissy, tous les aéroports, c'est on plafonne. Et chaque aéroport... localement dit où doit être le plafond. Voilà, donc c'est moins de trafic aérien, plus d'avenir. Voilà, donc nous, bien sûr, pour Franck Hazan, on sait exactement la même chose. Pas question d'aller mettre... C'est Chosy qui voulait mettre les low-cost sur Franck Hazan. C'était l'idée du matin, il a dû se réveiller comme ça. On met tous les low-cost à Franck Hazan. Génial.
En tout cas, cette problématique des trois aéroports a quand même été évoquée dans les ateliers. Hein. Le fait qu'il fallait effectivement tenir compte de l'Asbord et de Franck Hazan avec Toulouse-Blagnac.
Et d'aller plus loin aussi vers Narbonne, Carcassonne, etc. Surtout.
Est-ce qu'il y a une dernière question ?
Un petit complément juste sur Franck Hazan. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est actionnaire de Franck Hazan. Mm-hmm. Donc nous, il y a aussi un travail qu'on fait, c'est-à-dire, c'est bien, il faut rappeler qu'il y a officiellement une majorité publique au directoire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, officiellement.
Monsieur.
Donc du coup, il y a aussi un travail quand les élus nous disent « Ah oui, mais c'est compliqué pour l'aéroport », mais l'aéroport, normalement, c'est eux aussi. Et indirectement, du coup, sur Franck Hazan, à travers l'actionnariat de ATB dans...
Donc, monsieur, une dernière question.
Est-ce que toutes ces données sont accessibles au grand public quelque part ?
Les documents là ? Ça ?
Oui, l'atelier des territoires,
bien sûr. On le mettra en ligne sur le site de l'Université Populaire.
Et les thèmes qui sont débattus dans l'approche équilibrée, là, c'est aussi décrit de façon concrète quelque part ?
Ah, pas encore.
C'est pas encore tout à fait. Alors, parce qu'il y a eu un cahier des charges, comme je vous ai dit, qui a été fait par la DTA, la Direction du Transport Aérien. Et nous, il y a des choses qu'on voudrait bien voir figurer, qu'on n'avait pas réussi à faire figurer du temps de la DTA. Donc maintenant, on reprend nos petites armes et on va essayer de faire intégrer ça dans le cahier des charges. Donc, et là, quand on l'aura bien...
Voilà. Le CNAT, tu peux dire que sur votre site, ça sera mis en ligne.
Ce sera mis en ligne.
Et le PAD.
Et le PAD, etc.
Sur le site du CNAP, la collectivité pour les mesures aériennes, tous les documents sont en ligne au fur et à mesure.
Et
alors, avant de passer justement au PAD, j'avais une dernière question. On est à Toulouse. Vous avez dit que Tisséo était absent des discussions. Oui. Vous avez rapidement évoqué la position du maire sur la question du couvre-feu, qu'il a répété sa position. Oui. Quelle a été la participation de Jean-Louis Moudin ou de son représentant ? Quelle était la parole qu'il a portée, les positions qu'il a portées dans ce débat ?
Alors moi, je vais vous dire, la représentante de la métropole, c'était à Blagnac, nous a dit « Vous pouvez pas dire ce que vous dites. » C'est-à-dire au sujet, une fois plus, de « Faut-il pas penser décroissance, réfléchir, faire un pas de côté ?»« Nous sommes en concurrence frontale avec Boeing. Il est hors de question que depuis Toulouse, on puisse aujourd'hui dire que nous parlons de décroissance du trafic aérien. » C'est en deux questions qu'il puisse sortir qu'officiellement dans des réunions prêtées par le préfet, ce type de sujets sont abordés. Voilà, c'est clair et net. On ne parle pas de ça. Ça, c'est la position...
Il n'y a pas d'élus toulousains, du coup.
Eh bien, elle est, c'est la vice-présidente de la métropole.
Oui, d'accord, mais elle est
Non, c'est Agnès...
Planieu-Bertrand.
Agnès Planieu-Bertrand, qui est une ancienne derviche. Et tout, donc, je veux dire, ça a été vite fait. Et ça, c'était au début, quand ils ne supportaient pas qu'on puisse intervenir. Elle a pensé, à mon avis, sans doute la même chose à la fin de l'atelier du territoire, mais elle n'osait plus le dire, parce que c'est pris les vents quand même. Voilà, on a la position, une fois de plus, ça recoupe ça. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas à quel point l'aéronautique, et Airbus en particulier, je dis Airbus parce que c'est gros, hein, parce que l'ATR, c'est aussi l'aéronautique, mais c'est petit, mais quelle est la chape de plomb qui pèse sur cette agglomération et sur la région quand il s'agit de parler d'aéronautique et d'aérien. C'est clair, c'est une chape de plomb qui est lourde et qu'il est quasi impossible de faire bouger. Donc,
du coup, ça s'est résumé à ça.
Non, mais par contre, pour te compléter, certes, il y avait cet élu, la vice-présidente, mais il y avait aussi un représentant, il y avait le directeur de... Alors, c'est l'administration... c'était le représentant, le directeur de l'administration technique de Toulouse, là,
le DDT,
qui intervenait.
La DDT
Non. Directeur de Toulouse Métropole.
Il y avait quelqu'un du cabinet du président.
Oui, voilà, c'était un membre du cabinet, qui avait une approche bien plus ouverte et bien plus équilibrée à chaque fois qu'il intervenait. Bon, maintenant, est-ce que c'était un jeu de rôle?
Pierre-Emmanuel Ramon.
Oui, voilà. Est-ce que c'était un jeu de rôle? J'en sais rien.
Et ça rejoint ce qui a été dit un peu sur les élus. Effectivement, dans les réunions elles-mêmes, ils sont quasiment pas intervenus. La métropole, la région, le département, la métropole sont quasiment pas intervenus. Sans doute qu'ils se sont mis un peu en observateur et qu'il y a des choses qui se passent par derrière, effectivement. C'est un peu ce qu'on a ressenti, qui restait... des élus locaux de communes, oui, sont intervenus, mais les services intervenaient. Par contre, les trois entités qui sont le deuxième rideau derrière le préfet, région, département et métropole, étaient très discrets pendant les ateliers eux-mêmes.
Ouais, il y a Pascal Bourreau, conseiller départemental, qui, étant donné, est quand même a soutenu les batailles autour de la lutte contre la privatisation de la gestion de l'aéroport, des choses comme ça.
Mais dans l'atelier.
Est intervenu à minimum. Mais c'est vrai que globalement, les grands absents, quand
même. Même audio. Une mémoire sonore.
Alors, on a 30 minutes de retard sur le point de prévu, comme d'habitude. Merci pour cette restitution. J'imagine qu'on aura largement d'autres occasions pour revenir sur ce sujet.
Non, vous mettez là. Ah non, reste là.
Oh, bah, t'es au pad, toi, en même temps.
Oui, on a trop posé.
Passons à la deuxième thématique de cette soirée avec le bilan du PAD. Pensons l'aéronautique ou l'aviation.
L'aéronautique.
L'aéronautique. Avec cette fois, du coup, Maxime Léonard en chemise blanche qui travaille pour Airbus, ingénieur, si je ne me trompe pas. Oui. Et Bruno Joubla, je ne sais pas pour qui vous travaillez.
Thalès.
Ingénieur aussi.
Ouais.
Ok. Est-ce que qui de vous deux veut réexpliquer la genèse du collectif, selon sa mission et...
Vas-y, j'étais pas là à l'époque. Moi.
Bon, je vais en parler, mais très brièvement, parce qu'on est un petit peu en retard. On va essayer de faire court. Et puis...
Enfin, il faut quand même dire que Maxime Léonard est quand même. Membre de la coordination CGT de l'aéronautique quand même, et que Bruno est un des animateurs, sinon le, je sais pas, c'était pas président des ateliers ICAR.
Oui, on en parlera. Moi, je suis pas président.
Ils sont pas là ex qualité uniquement en tant qu'ingénieur.
Donc la coordination CGT de l'aéro, ça regroupe en fait, c'est une structure informelle qui regroupe les syndicats de la filière qui sont dans des fédérations différentes. Parce qu'il y a à la fois les sous-traitants qui sont dans les sociétés numériques d'études numériques et les avionneurs comme Airbus qui sont dans la métallurgie. Donc ça permet de constituer de manière indifférenciée un collectif autour des savoir-faire et de l'expertise de l'aéronautique.
Et alors pourquoi vous vous êtes lancé dans ce PAD avec
Alors pourquoi on s'est lancé dans ce PAD? En fait, c'est lié au Covid. On s'est lancé. Il y a eu des gens qui ont eu l'intelligence d'écrire des tribunes, en fait. C'était au printemps 2020. dont une qui s'appelait le syndrome vers une crise économique majeure dans Toulouse et sa région. Toulouse, le syndrome de Détroit, point d'interrogation, donc, qui a été écrit par la bande des quatre. Copernic attaque les amis du monde diplomatique et l'Université populaire de Toulouse. Ça, c'était le 24 avril 2020. Il y a une autre tribune ensuite qui a été écrite par les gens d'Atécopole, donc l'atelier d'écologie politique à Toulouse, qui est un collectif de chercheurs à la fois en sciences dures et en sciences humaines. Je vous invite à aller voir leur blog, il y a des articles très intéressants. Et en fait, au travers de ces expressions publiques, alors il y a eu aussi, entre-temps, avant qu'on se réunisse, ici dans cette même salle, il y a 3 ans exactement, il y a eu une enquête qui a été lancée par notre coordination auprès des salariés de l'aéronautique. Donc il faut se rappeler un petit peu de l'ambiance et du contexte. À l'époque, on était tous confinés chez nous, les avions cloués au sol, plein d'emplois qui servent à rien. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de, dans le court terme qui arrive, pour faire travailler ces gens et pas que ce soit une hécatombe en termes d'emploi. Donc on s'est contacté, on a discuté un peu ensemble, on a vu qu'on avait pas mal de convergences, quelques divergences comme tout collectif, mais voilà, principalement des convergences. Donc on s'est réunis dans cette même salle en juin 2020, et de là est né le PAD avec un texte fondateur, une sorte de manifeste, je crois qu'on l'avait appelé comme ça, un manifeste, on doit pouvoir le trouver en ligne encore, qui avait le mérite de cadrer un petit peu nos attentes, enfin le constat, pas encore les propositions, parce que c'était justement le but de notre collectif, mais en tout cas la volonté de poser des questions et de vouloir avancer ensemble. Donc dans ce collectif, on trouvait à l'époque, parce qu'il y a eu quelques changements, donc il y avait des étudiants des écoles d'aéronautique, EAS, il y a le CNAT, Atécopole, Attaque Toulouse en particulier, l'Université populaire, j'en ai parlé, les Amis du monde diplomatique, Fondation Copernic, Manifeste pour l'industrie, ICAR, et ensuite sont venus s'ajouter d'autres collectifs tels que NON-OT4, donc qui est un collectif de lutte contre l'extension des aérogares à Roissy, et en particulier le Terminal 4. Sont venus après se joindre d'autres syndicats tels Alter, qui dépend de Solidaire, qui est un syndicat de pilotes à Air France. Et le SNPL, je crois, Guillaume, c'est le SNPL, c'est ça, Guillaume?
Mais il y a un titre individuel.
Oui, un titre individuel, voilà. Mmh. Bon, voilà, en tout cas, un représentant, même si ce n'est pas tout à fait officiel, des pilotes d'Air France, on en a 2, du coup. Une fois qu'on s'est réunis, on a voulu... L'idée principale, c'était de travailler ensemble pour, à un moment donné, faire des propositions et que les politiques, et in fine les industriels et la filière économique s'emparent de certaines de nos idées qui nous semblaient on pense toujours qu'avec nos compétences, nos savoir-faire, notre expertise notamment de salariés, mais aussi de riverains, de chercheurs, d'étudiants, on avait tous de manière collective des idées du fait de notre diversité quelque part, et pas que qu'un point de vue, parce qu'il y avait à la fois des gens qui allaient travailler dans l'aéronautique, des gens qui avaient un bagage intellectuel pour réfléchir à tout ça, des salariés qui a priori étaient les premiers à être assis sur la branche qu'on allait scier, qui étaient en train d'être sciés. Donc voilà. Ce qu'on a fait assez rapidement, c'est d'organiser la collecte de ces idées et comment travailler ensemble. On a fait un forum, ce qu'on a appelé un forum social environnemental de l'aéronautique. Ça, c'était à la Bourse du Travail de Toulouse au mois d'octobre 2020. Pour poser quelques bases, avoir quelques intervenants comme un géographe, Jean-Marc Giuliani, des gens du Manifeste de l'Industrie, Xavier Petraki, un chercheur en économie sociale, Julien Valéry, Chantal et Jérôme du CNAT qui ont présenté aussi toutes les problématiques de pollution, et Alexandra Beauvau du collectif Super-Aéro Décarbo, qui s'appelle maintenant Aéro Décarbo, qui était présente. Voilà, donc des bases, on va dire, théoriques ou diverses ont été un peu posées, il y avait une introduction en quelque sorte, et à partir de là, on a déclenché des ateliers avec qui voulait bien se joindre à ce travail. C'était des sortes de brainstorming avec des post-it, alors en ligne, parce qu'on était confinés à nouveau, si je me souviens bien. Donc dans Zoom, il y a eu trois ateliers, pour réfléchir sur de quoi avons-nous besoin, la problématique de la mono-industrie, on en a parlé un peu, et les enjeux environnementaux, quel trafic aérien pour demain. À la suite de ça, on a restitué ces travaux, ça c'était en mars, au printemps 2021. On a aussi, dans nos activités du PAD, fait des communiqués, disons des réactions à chaud sur des expressions publiques soit d'entreprises, soit de PDG, soit de responsables politiques qui nous faisaient réagir. Donc ça, je vous invite à aller voir sur le site du PAD, tous les communiqués où la plupart d'entre eux y figurent.
Aérodemain, vous tapez aérodemain.
Aérodemain.org, tout à fait. Bon, on a aussi Facebook, Twitter, LinkedIn. Voilà, donc on a en pointillé des communiqués jusqu'à aujourd'hui qui continuent. On réagit sur ce qui se passe dans l'espace public.
Quel regard vous portez, s'il fallait résumer en trois points, quel regard vous portez sur l'aéronautique en fait du coup?
Alors, le regard que l'on porte, c'est que malgré toutes les solutions technologiques qui sont proposées par l'industrie notamment. C'est que bon, on parle d'avion vert, on parle de biofuel, etc. Ce que disent les chercheurs, on s'appuie sur les travaux du GIEC ou des chercheurs de super-héros, c'est que cette décarbonation de la technologie des avions ne suffira pas parce que principalement il y a une croissance du trafic qui reprend aujourd'hui, on le voit bien, va complètement annuler les gains faits par ces technologies. Donc nécessairement, il faudra une sobriété. Limiter le trafic aérien comme aujourd'hui on arrive à... Enfin, aujourd'hui on n'a pas encore ces contraintes, mais pour l'automobile on a la fin du thermique en 2035. Donc là il y a un coup près qui tombe. Voilà, il faut que nécessairement il y a un changement. Pour l'aéronautique, c'est éventuellement un avion vert en 2035. Bon, parmi les salariés, on y croit moyennement. Voilà, donc... Et les propositions que l'on fait, donc c'est du fait de cette sobriété nécessaire, ça veut dire que nécessairement il y aura un impact sur l'emploi. Et comment on se prépare à ça, puisque voilà, comme on l'a dit, il y a des syndicats dans ce collectif. Pour nous, à la CGT, on est évidemment, enfin, on défend les emplois de nos collègues, enfin nos emplois à nous. Et donc comment on fait pour à la fois réduire le niveau de production des avions, puisque c'est de ça dont on parle, s'il faut qu'il y ait moins d'avions qui volent, ça veut dire qu'il y a moins de production d'avions, il y a aussi moins de pilotes qui vont travailler dans les compagnies aériennes, il y a nécessairement tout le tissu économique lié aussi bien au trafic aérien qu'à la construction qui doit diminuer. Donc à partir de là, on ne va pas sacrifier ses emplois. Et qu'est-ce qu'on propose ? On propose une diversification, puisqu'on a une transition écologique qui n'attend que ça, d'avoir des bras et des cerveaux qui travaillent pour isoler les bâtiments, pour développer les réseaux ferroviaires, pour développer les éoliennes. On a des compétences qui peuvent être appliquées, certaines assez immédiatement, à ces technologies de la transition écologique. Voilà, donc c'est principalement l'axe que l'on propose, au travers de, vous les trouverez dans le rapport qui a été piloté par Bruno pour le PAD. Il y a d'autres idées aussi, mais l'axe principal c'est celui-là. Et au passage, ce qu'on dit, c'est que bon, aujourd'hui, quand on voit le modèle d'organisation des entreprises, c'est très très descendant. Les salariés n'ont pas voix au chapitre. On voit au quotidien nos droits diminuer en tant que salariés, qui sont attaqués en permanence, y compris chez nous, chez Airbus. Voilà. Donc, c'est profiter de cette remise à plat quelque part pour changer de modèle de gouvernance. Il y avait une présentation qui a été faite justement par Julien Valéry à l'époque, qui était. Je vous invite à voir les vidéos, on peut tout trouver sur internet aujourd'hui, des vidéos qui ont été présentées, elles sont toujours très, très actuelles. Donc l'idée c'est d'aller de changer la gouvernance des entreprises en ayant plus de participation des salariés, parce qu'aujourd'hui on est les grands absents de tout ce qui est définition de la stratégie des entreprises, et on voit qu'aujourd'hui le problème c'est que c'est uniquement le profit qui dirige la stratégie d'entreprise, c'est du profit à court terme, et l'environnement ne fait absolument pas partie des indicateurs ou des objectifs à prendre en compte dans cette stratégie. Donc voilà, c'est à la fois respecter, augmenter les droits de l'environnement et aussi ceux des salariés, puisque c'est finalement la même chose.
Et alors, au bout de 3 ans, peut-être Bruno Joubla, pardon, je vais y arriver, est-ce que vous parlez tout seul dans votre coin, ou est-ce que les revendications que vous portez commencent à être entendues?
Je prends juste une minute pour expliquer ce que je fais, parce que je pense que les ateliers ICAR, il y a pas mal de gens qui ne sont pas forcément familiers avec cet asso, qui est une asso jeune, un peu moins de membres que la CGT. C'est une asso de salariés, historiquement de salariés de l'aéro, avec beaucoup de gens de Toulouse, qui voulaient un peu repenser ce lien entre le travail et l'écologie, beaucoup de gens engagés dans l'écologie au niveau perso, et qui, arrivant au boulot, devaient y aller plein pot pour faire des avions ou quoi que ce soit d'autre. Et à un moment, on dit c'est pas possible d'avoir ce genre de double casquette, et il faut aussi repenser la manière dont on travaille. Il n'y a pas que le travail marchand, il n'y a pas que le productivisme, le développement, etc. Donc les ateliers ICAR, c'est tout ça. Historiquement, on était dans l'aéro, et maintenant, on s'est aperçu que ces problèmes qu'un salarié avec sa dissonance cognitive-là, c'est pas que les gens de l'aéro qui l'ont. Hein, y a plein de gens qui sont dans l'asso d'ailleurs, hein, mais ailleurs aussi, qui ont ces problématiques-là dans le secteur du numérique, grande industrie, automobile, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, une réflexion qui est globale, plutôt sur le travail, avec la dénonciation du travail tel qu'on le pratique actuellement, et la recherche d'alternatives. C'est juste le petit topo sur ce qu'on fait dans l'asso. Et les ateliers ICAR sont donc depuis le début membres du collectif PAD. Donc on est un des 2-3 éléments en effet du PAD salariés, et donc qui traitons ce sujet-là avec particulièrement la thématique de l'emploi qu'il y a derrière ça. Si on fait le bilan, du coup je reviens à ta question. Moi je dirais 2 choses, hein, d'un point de vue des salariés, et en tout cas de notre asso. Il y a un bilan purement comptable, qui est de se dire que il n'y a pas eu non plus une explosion de la prise de conscience sur cette thématique-là, au niveau du secteur toulousain en particulier. Le Covid avait notamment agi un petit peu comme un électrochoc chez beaucoup de gens, donc je pense qu'à l'époque justement on était parti sur des bases assez fortes, assez profondes, et là on le sent sur plein d'autres sujets, il y a un petit retour vers les bonnes vieilles habitudes confortables qu'on peut plus ou moins relier à la société de consommation, qui a quand même des côtés sympas, et puis bon voilà quoi. Donc pourquoi tout remettre en cause un petit peu finalement, c'est voilà. Pas forcément beaucoup plus de gens du coup dans notre asso, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas forcément sur le sujet de l'aviation que l'on traite toujours, mais ce sujet là on n'a pas accueilli beaucoup de gens du secteur aéro pour venir nous donner un coup de main à travailler sur ce sujet là au niveau du PAD. Je dirais que c'est quand même globalement à peu près pareil, c'est les mêmes gens qu'au début en gros, il n'y a pas de nouveaux accueillants, et donc là il y a clairement un message à faire passer ici, et quand on intervient par ailleurs, c'est vraiment si ce sujet là vous pensez comme nous qu'il est important, bah, venez nous donner un coup de main, parce que clairement là on est en train ce soir de parler d'un sujet extrêmement complexe, extrêmement profond. On est en train de parler d'une mutation de la région toulousaine qui est absolument tabou et compliqué à faire. Donc c'est pas avec nos 15 petites mains et qu'ils ont tous plein de choses à côté que ça va marcher quoi. Alors évidemment il y a d'autres gens qui adressent ce sujet-là par ailleurs, mais au final le compte y est pas forcément. Donc voilà, ce bilan comptable est de dire bah, on est encore on a fait plein de choses, hein. Maxime en a parlé, mais il n'a pas parlé des assises de l'aviation. Je pourrais parler plus du rapport moins d'avion plus d'emploi, il y a eu d'autres choses encore, donc il y a eu plein de choses. On voit que la décroissance du trafic aérien, même dans notre territoire, c'est moins tabou qu'il y a 5 ans ou même au moment du Covid, c'est clair. Par contre, avant d'arriver à des résultats concrets, factuels, je pense qu'on a, on a un petit siècle à ce rythme-là devant nous. Quoi. Donc tu parlais tout à l'heure de l'urgence, malheureusement, on n'y est pas. Donc ça, c'est le bilan comptable. Et après, il y a des signaux faibles. Moi, en tant que salarié, alors il y a certainement d'autres salariés de l'aéro ici, mais c'est des signaux faibles que je trouve quand même qui sont positifs, avec une évolution quand même pareil par rapport à il y a 3-4 ans. On n'a plus à raser les murs quand on a une approche un petit peu voilà, décroissante sur cette question de moins prendre l'avion et tout ça. C'est moins absolument tabou. Il y a des choses qui se passent dans les entreprises, donc les gens de super-héros nous aident beaucoup là-dessus, avec leur casquette très sérieuse de super-héros, donc voilà, quand même, qui ont fait un référentiel, bien sûr, que je connaissais, qui s'appelle référentiel aviation et climat, où avec une position très académique, très sérieuse, bah, ils avancent des sujets comme « bon, bah, de toute façon, jamais on tient les 1,5 degrés, ça c'est mort, donc après, bah, c'est un choix, hein, un choix de société, qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on on y va tous les secteurs à fond, plein pot, ou alors on fait un arbitrage entre différents secteurs, ou alors, bon, bah, si on n'arrive pas à faire tout ça, on baisse le trafic. » Donc ça, c'est des messages que les chercheurs, enseignants de super-héros ont mis dans le rapport et se sont proposés de présenter dans le monde de l'entreprise toulousain. Et donc, par exemple, moi, dans ma boîte, donc je disais que je travaille chez Thales, on a poussé ça. Au début, c'était oh, « oh, c'est quoi ce truc-là ? Ça sent pas bon, ça sent le piège et tout, des gens du... infiltré là, et puis finalement bah, c'est quand même un rapport super-héros qui a pignon sur rue, il y a un chef ou deux qui lit, il dit bah non franchement c'est carré banco, on finit bah, là il y a 6 mois avec une présentation de ces gens là dans la salle, avec une salle qui est 3 fois plus grande que celle-ci, avec donc des salariés du secteur aéro qui font absolument sale comble, et bon ça prenait pas des notes, mais clairement tout le monde avait les yeux grands ouverts avec une curiosité de se dire bon là quand même il y a en fait voilà, on le sait qu'il y a un sujet et on sait qu'on adresse quelque chose aujourd'hui qui fait sens, mais par contre voilà, les solutions elles sont compliquées à avoir. Mais ça c'est un autre signe faible, une salle comble sur un sujet comme ça avec des gens qui disent bon message subliminal, il faut baisser le trafic, c'est quand même fort. Moi j'avais peur qu'on soit 20 quoi, on était nombreux. Et je connais aussi, pour finir après vous prendrez la suite, mais je connais aussi des salariés de l'aéro aujourd'hui qui vont à Paris ou dans d'autres coins de la France en train. Et ça, c'est pareil. À l'époque, je pense que c'était même pas une question qui se posait, quoi. Mais clairement, il y a des gens qui prennent le train pour y aller, même si c'est plus long, qui font pas ça, genre, j'ose même pas le dire, je le fais en douce, on en parle en équipe, etc. Et y a, voilà. C'est une petite avance et c'est des petits pas. Donc, comment arriver pour faire un truc bien plus rapide et plus ambitieux ? Personnellement, je n'ai pas la solution, mais je pense qu'on touche des sujets importants. On contribue comme on peut, mais...
Quels sont les chantiers que vous avez initiés pour les 12 prochains mois ? Est-ce qu'il y a un nouvel événement, des assises ou un rapport, une étude qui vont sortir ?
Alors, au niveau des collectifs, pour l'instant, on est en train de... On va d'abord digérer l'atelier du territoire dont on vient parler. On a besoin de se débriefer entre nous. Ne serait-ce parce que ça pose une question pour le collectif en lui-même. Est-ce qu'on, entre guillemets, s'institutionnalise en allant plus loin que cette participation à l'atelier du territoire et en allant donc continuer le travail de guérilla qu'on a un peu initié depuis 10 mois, ça c'est une question qu'on va avoir à trancher au niveau du PAD. Et deuxièmement, on est de plus en plus assez réactif aujourd'hui sur les inepties qu'on entend dans les médias. Aujourd'hui, on en est à un rythme pratiquement d'un communiqué par semaine. Sur telle déclaration à la con d'euphorie qui vous annonce que tel mec d'aéroport de Paris dit une énormité, que Air France continue à nous faire du greenwashing, etc. Donc on est extrêmement réactif, on est à tout. Moi, j'aime bien la manière dont Bruno vient de parler. Je crois que c'est toi qui en a mieux parlé de l'évolution du PAD et de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est, nous, au niveau du PAD, je pense qu'on pourrait parler de, par exemple, Airbus, il y a une commission de gens à Airbus qui vient de se mettre en place. Vous avez des salariés, donc on va faire réfléchir à la problématique de l'environnement. Je sais pas, Hélène ou quelqu'un pourra en parler peut-être. Il y a comme ça une multiplication de signaux qui nous arrivent du fait que ce qu'on dit au PAD depuis 3 ans, on prêche un peu moins dans le désert, y compris au niveau des salariés. C'est-à-dire que le peu à peu ça infuse et tout. Alors on est bien aidé, faut reconnaître, parce que par la situation plus globale du réchauffement climatique quand même, parce que je veux dire, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, on a de quoi flipper, hein, les uns et les autres, on est bien d'accord, pour un peu qu'on se tienne au courant, les perspectives sont pas très joyeuses. Et puis, on apprend d'un seul coup que, ça y est, les avions, plus l'air est compliqué maintenant, la multiplication des turbulences aériennes dans le ciel aérien, les compagnies aériennes sont en train de se préparer à ça, ils sont en train d'augmenter les réserves financières pour répondre au côté accidentogène des turbulences dans l'aérien, qui sont en train d'augmenter, qui ont augmenté de 70% ces dernières années. D'accord, sur les vols sur l'Amérique du Nord, ça c'est une nouvelle de ce matin. Hein. On a en permanence des nouvelles qui sont faites, qu'il y a une forme d'omerta autour du transport aérien et de la construction aéronautique qui est en train de sauter quand même. Hein, je disais qu'il y a qu'à Toulouse, quoi, presque, qu'on ne peut pas en causer. Quoi, hein. Mais globalement, nous, on le sent. Donc, pour le PAD, c'est quand même une source d'intérêt. Ça montre que le travail qu'on fait, il pèse. On commence à avoir un certain impact. On est écouté, on est en phase, en fin de compte, avec une certaine évolution. Et s'il faut qu'on en arrive peut-être le PAD à faire comme les soulèvements de la Terre, c'est une autre histoire. Mais je suis un peu provocateur, mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion qu'on a à mener aujourd'hui sur nos formes d'action, nos formes de lutte. On a des idées qui germent. Je ne sais pas si on en parle, on devrait la garder secrète, mais on a comme ça des idées. Par contre, on va être transparent parce que c'est le but, c'est ça. On est là pour vous restituer 3 ans d'activité du PAD. On n'a pas vu nos effectifs exploser. De militants et de gens disponibles. On est resté sur un noyau dur de camarades qui ont du temps. Et puis la retraite, il y en a qui l'ont et qui l'utilisent comme certains. Bon, tout. Mais c'est vrai que quand on est salarié, on n'a pas autant de temps qu'il le faudrait aussi. Donc le PAD n'est pas entre deux eaux. Je pense qu'on s'est bien, raffermi dans notre connaissance du sujet, dans notre manière d'en parler. Hein, on est sans doute plus raccord entre nous, parce qu'on avait des vraies différences à une époque. On est sans doute plus raccord entre nous, parce que le passé est très divers. Vous savez, se dire un jour, je vais mettre dans la même salle et dans la même structure des camarades de la CGT. La CGT a une réputation ancienne, mais pas fausse totalement, d'être un syndicat plutôt productiviste et une vieille tendance historique. Des associations comme Copernic ou d'autres qui n'ont pas le même profil, des salariés qui ne sont pas syndiqués en plus. Des riverains qui sont des chieurs comme c'est pas fini, etc. Mettre ces gens-là dans la même casserole et les faire bosser ensemble et tout, on a bien harmonisé notre travail, donc rien que ça, c'est un apport, c'est un acquis. Et qui doit nous permettre normalement dans les années qui viennent de continuer à avancer et d'apporter ce qu'on a à faire. Et en fait, bon, ces 3 ans, je vous fais à chaud, hein, comme ça, hein, c'est de l'improvisation. Mais quand on tire un bilan des 3 ans, on n'a pas perdu notre temps. Réellement, on n'a pas perdu notre temps dans notre compréhension du problème lui-même, dans notre capacité à comprendre ce que disent nos camarades et à bien se caler les uns par rapport aux autres. Et maintenant, c'est vers vous qu'on va se retourner en disant quand est-ce qu'à Toulouse, on se bouge le cul pour attaquer la citadelle d'Airbus, enfin pour faire qu'on parle à Toulouse de choses dont personne ne veut parler. Hein, qui sont et le transport aérien. Parce que je vous signale que s'il y a moins d'avions, s'il y a moins d'avions construits, s'il y a moins de trafic aérien, il y a moins d'hôtels dans la zone aéroportuaire, il y a moins de sous-traitants, il y a moins de restaurants, il y a moins de cafés, il y a moins de coiffeurs, il y a moins de cordonniers, il y a moins de tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, quand on mesure le poids économique d'Airbus, si Airbus a quelques difficultés, mais c'est toute la ville qui tremble. Et je ne comprends pas qu'à Toulouse, on ne s'inquiète pas de ça.
Alors, Airbus, c'est très toulousain, très important pour Toulouse, mais c'est très important au niveau européen. Est-ce que ce PAD, il est toulousain? Est-ce qu'il est franco-français ou est-ce qu'il est ouvert aux autres salariés anglais, espagnols?
On a fait notre premier comité avec les Indiens.
Et avec d'autres, est-ce que d'autres collectifs similaires existent en France, mais aussi du côté de Boeing, peut-être, aux États-Unis, à votre connaissance?
Bonne question.
On a eu quelques contacts avec l'homme des assises de l'aéronautique, on a eu quelques contacts avec des Anglais, des Écossais en particulier, qui ont un collectif aussi là-bas, mais on n'est pas vraiment international encore. On a pondu un premier communiqué là commun avec une entreprise autour de la vente des 450 avions pour Air India là, qui vient de se faire. On a publié un communiqué il y a 3 ou 4 jours sur ce sujet là.
Quand même, on a réussi à travailler et à faire des manifs, etc., avec Steve Grounded, Réseau Action Climat, Extinction Rebellion, Alternativa. On a quand même bien travaillé avec les autres. Ça, c'est une vraie réussite. Et nous, les riverains, on se sentait quand même très seuls, parce que, historiquement, à part les riverains qui sont autour des aéroports que t'es gênés par le bruit, personne ne s'intéressait à notre sort. Après, il y a une quinzaine d'années, c'est la pollution qui est venue un petit peu. Ah oui, peut-être qu'on n'est pas très bien, surtout à Blagnac, là, quand les vents poussent, etc. Oui, voilà. Et maintenant, il y a donc toute la problématique liée au réchauffement climatique. Donc, nous, riverains, on se sent enfin un peu soutenus. Et maintenant, c'est génial, parce que Stay Grounded, quand il fait un communiqué, il parle de nous maintenant.
C'est qui
Stay Grounded, rester sur Terre. C'est pas clouer les avions au sol, hein, mais c'est rester sur Terre, c'est-à-dire garder raison.
Mais c'est un collectif anglais.
C'est anglais au départ et qui a des antennes un peu dans tous les pays, et notamment en France. Réseau Action Climat, quand ils font des communiqués, ils parlent aussi. Ils n'oublient plus de parler santé, riverain, population. Et on n'est plus toujours obligé d'être là pour leur dire. C'est rentré dans les mœurs. Voilà. Donc, c'était super important, je trouve, ça. Et le PAD, nous riverains, on n'a jamais voulu récupérer quoi que ce soit, mais on a trouvé, vraiment, on est comme des petits grains d'ail dans ce PAD, parce que on a trouvé un écho à nos problématiques. Donc, merci. Voilà.
On a des liens aussi avec Greenpeace. Ouais. On travaille bien avec eux. Ils ont des analyses aussi qui sont très pertinentes sur l'aérien. Enfin, je vous invite à voir des articles ou ce qu'ils disent sur leur site. C'est vraiment bien fait.
Ils font partie du collectif ou...
Alors non, ils ont des liens avec nous, des liens forts, mais ils n'ont pas souhaité rejoindre le collectif, de même que le RAC. Voilà. Et on a, alors pour juste faire un lien avec les relations qu'on a avec ces organismes-là, avec ces ONG-là, la CGT, on est en train de travailler ensemble. Alors, on a commencé par l'automobile. On a eu un forum à Montreuil il y a 15 jours sur l'avenir de l'automobile. Avec, donc, il y avait la Fédération de la métallurgie CGT, mais aussi Greenpeace et le RAC. Donc c'est très prometteur. Voilà, on a, les conclusions en fait, de ce forum, c'était sur une journée, ont été un peu les mêmes que les nôtres d'ailleurs. C'est... il faut arriver à pousser nos propositions, notamment auprès du politique. Mais voilà, on se rend compte, c'est un sujet que je voulais aborder, c'est que aujourd'hui, enfin au départ en tout cas, on s'était placé comme étant une force de proposition. On était un peu gentil dans notre manière de pousser les choses en disant on va discuter entre gens intelligents, avec des bonnes idées, ça devrait aller. Mais on se rend compte qu'on est face à des murs. Hein. C'est un poids impressionnant, hein, que ce soit l'industrie en particulier, mais les médias aussi. Ils ont beau sortir des âneries comme c'est pas possible, hein, en termes de contribution de l'aviation au réchauffement climatique. On nous parle de 2%, on est à 3, au moins à 3 fois ce chiffre-là. On a un boulevard en termes théoriques, on a un boulevard face à eux. Le problème, c'est que c'est un rouleau compresseur. Ils ont accès à tous les médias. Les journalistes ne les contredisent absolument pas. Ils ne les questionnent pas. Bon, nous, on a une force de frappe qui est beaucoup plus réduite. Bon, on a notre diversité, comme je l'ai dit, avec nos arguments, nos propositions qui nous semblent être les bonnes, notre diversité, encore une fois. C'est un appel, là aussi, je renouvelle l'appel, c'est on fait un appel à contribution, hein, au sein du PAD pour... parce que plus on sera nombreux, plus on pourra essayer d'influer sur... notre objectif, c'est vraiment de contrecarrer cet intox, c'est cette désinformation qu'on voit, pas seulement dans l'aviation, on le voit dans plein de domaines aujourd'hui, dès qu'on parle d'environnement, que ce soit l'agriculture, on a parlé des méga-bassines, les enjeux autour des méga-bassines, et on se rend compte d'ailleurs, en parlant de ces méga-bassines, qu'à un moment donné, ils étaient prêts à blesser et à tuer des gens, enfin tuer, pas encore, mais il y a quand même quelqu'un qui est dans le coma, mais que ces enjeux environnementaux, à un moment donné, on tape dans le dur, et pour l'aviation, je sais pas, c'est un domaine parmi d'autres, jusqu'où il faudra aller. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on dépasse... il faut qu'on dépasse le stade de force de proposition. Et dans le forum de l'auto qu'on a eu à Montreuil, donc c'était il y a 2 semaines, on est arrivé finalement dans des considérations qui sont un peu celles que nous on a dans le syndicalisme, c'est-à-dire une question de rapport de force. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas un moyen de pression, soit que ce soit l'opinion publique, soit que ce soit par d'autres moyens, et les jeunes d'Extinction Rébellion ou autres collectifs l'ont bien compris, hein, la manière dont ils agissent, c'est c'est une violence qui est opposée à une autre violence qui est celle de la destruction de notre planète, de notre, de l'humanité quelque part. Donc voilà, c'est, donc je, voilà, pour revenir juste finir là-dessus, c'est que ça va pas se faire juste en gentiment. Alors les communiqués, tout ce qui est toutes les analyses que l'on fait, les propositions, les communiqués, c'est une chose, mais clairement ça va pas suffire.
Éric Laviel, et puis après préparez vos questions, ce sera à vous.
Oui, juste une observation par rapport à ce qui vient d'être dit. Bon, alors c'est vrai que France Nature Environnement n'est pas encore dans le PAB, mais on peut se poser la question parce que tu viens de l'expliquer, hein, de l'intégrer dans ce que tu venais de dire sur le sujet des enjeux environnementaux, qui est quand même au cœur. On en revient à ça. Et je trouve que ce que tu disais sur... Enfin, quand on prend les acteurs économiques, les salariés, et ce sujet du sens au travail, je veux dire, tout est lié. Il est clair que de plus en plus de salariés se posent des questions, j'allais dire, quasi existentielles, sur pourquoi je suis dans cette entreprise... alors que tout risque de brûler ou qu'on va avoir des contraintes et des enjeux environnementaux majeurs dans les années à venir. Donc, c'est vrai qu'il y a un poids important qui peut être, enfin, un rôle important qui peut être joué par ne serait-ce que les salariés à l'intérieur des entreprises, parce que effectivement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de salariés qui ont au cœur de leurs préoccupations ces enjeux environnementaux qui conditionnent tout le reste. Je parlais des fameuses limites planétaires en début de réunion. Je vous rappelle, il y en a 6 qui sont déjà atteintes sur 9 et une 7e qui est sur le point de l'être. Donc voilà, donc c'est à partir du moment où la majeure partie des salariés a déjà cette prise de conscience et est prêt à aller au-delà de la prise de conscience, c'est-à-dire à agir, ben là, je pense que vous allez pouvoir mobiliser et recruter.
Alors, il faut qu'on parle de ça. C'est la majeure partie des salariés, malheureusement, moi, j'aimerais... Ouais, c'est pas ma vision, voilà. Donc, voilà. C'est quoi, il y a peut-être des gens qui sont salariés d'Olaro ou d'ailleurs, mais c'est pas ma vision.
Peut-être, oui,
ça reste malheureusement... On trouve de tout, hein. Moi, ma vision, c'est que il y a des gens qui sont très engagés, très à fond, qui ont une grosse dissonance cognitive, comme je peux l'avoir entre le boulot et les convictions perso. Il y a des gens qui sont un petit peu à l'opposé, relativement indifférents, ou écoute, là on est au boulot, là, puis moi ça me, c'est pas, moi je fais ce qu'on me demande, voilà, ils voient même pas le problème à la limite. Et des gens qui sont un peu entre les deux, du genre bah écoute, oui, il y a un souci, après moi, ça va dans le bon sens, après tout, tu vois, Airbus, on commence à faire ci, on a fait un premier vol avec du SAF à 100%, on a fait ça, donc bon, voilà, c'est un petit peu positif, et puis ouais, voilà, donc c'est quand même relativement voilà, moi j'ai pas une vision de gens qui sont en majorité sur des positions radicales telles qu'on en parle aujourd'hui, par exemple.
Et après, on donne la parole. Ouais.
Oui, d'autant que le 19 juin, il y a le salon du Bourget, avec le lancement. Voilà. Et j'étais invitée d'ailleurs, j'y vais pas. Mais voilà. Mais par contre, pour vous dire, juste, c'est toujours pareil, communiquer, etc. On prépare une tribune. Voilà. Et on la fera passer. Alors, le principe, c'est qu'on la lance et on la propose à un média. D'ailleurs, on pourrait peut-être proposer de temps en temps des tribunes à Mediacité.
On a repris celle en 2020 sur... Il y a eu une belle controverse de Détroit. On peut continuer.
On va y penser très fort. Donc voilà, le texte n'est pas tendre, mais voilà. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que l'actualité continue. Voilà.
Alors, les questions à la salle, est-ce que vous pouvez vous présenter pour dire d'où vous parlez? J'ai oublié de le demander tout à l'heure. Pour mademoiselle, madame, pardon.
Bonsoir, donc Joanna Roquet, moi je suis militante Europe Écologie Les Verts. Et en fait, déjà, je vous remercie pour cette présentation. Moi, je suis d'assez loin les questions d'aéro. Je ne fais pas partie des gens dans mon parti qui s'en préoccupent le plus, pour être honnête. Mais j'aime beaucoup les conférences de l'Université Populaire de Toulouse. Et c'est un sujet dont on ne peut pas tellement se passer à Toulouse. Je trouve que entre les deux parties de votre présentation, c'était intéressant parce que dans la première partie, on a vu la lutte un peu contre ou avec les élus pour faire bouger les choses. Et puis dans la seconde partie, on voit un peu plus la problématique autour des travailleurs et donc des individus. Ce qui m'amène à une réflexion, c'est que politiquement, aujourd'hui, c'est absolument pas porteur de soutenir, d'envisager une décroissance. Enfin, je veux dire, vous avez dit les élus, les acteurs sont pas prêts à l'entendre, mais en fait, le grand public, pas tellement non plus. C'est aussi pour ça que Moudenc, même s'il est en train de faire son bilan de mi-mandat, très écologique, tout ça, sur ces sujets-là, il ne se positionne pas du tout. C'est hors de question d'envisager une décroissance de l'aéro à Toulouse. Oh mon Dieu, vous voulez tuer la ville. Et donc, ma question, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais en fait, j'aimerais bien entendre ce que vous en dites, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à toucher ce grand public? J'entends que déjà, pour toucher les travailleurs, ce n'est pas évident. Peut-être que les travailleurs, c'est en même temps les plus au cœur de la machine, en même temps les premières victimes, donc je conçois que ce ne soit pas forcément certain, évident à les faire bouger, que ce soit là aussi qu'il y a le plus de résistance. Mais du coup, comment est-ce qu'on arrive à faire bouger le grand public pour que nos élus puissent défendre autre chose que, oh mon Dieu, non, surtout pas de décroissance.
Alors, comment passer du bijou au zénith?
Bon, moi, j'ai une petite idée. Faut déjà toucher à la fiscalité. Le kérosène n'est pas taxé, il n'y a pas de TVA sur le billet, et à chaque fois qu'une compagnie veut s'installer, elle a droit à ce qu'on appelle des incentives, des petites incitations financières. Mais ce n'est pas des petites, 70% la première, 50% la deuxième, 30% la troisième. Donc, ça veut dire open bar, allez-y. On ne paye pas le vrai prix du transport aérien. Donc, le jour où on paiera le vrai prix du transport aérien, bien sûr, on va renchérir le prix du billet, mais on aura un vrai prix d'un voyage normal, et pas 9 euros pour aller à l'autre bout de l'Europe pour aller faire une petite fête. Donc, il faut jouer sur la fiscalité. Et dans ce combat, justement, il y a des élus qui nous aident. Et on a notamment notre députée de la 4e circonscription, Mme Arrigui, qui a tout un...
La
9e, pardon. Oui, la 4e, c'est M. Pitman. L'acte de la 9e, voilà, qui a tout un petit pool de petites idées là-dessus. Donc, il faut toucher au porte-monnaie. Voilà. Et bien sûr, donc c'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui est passé. Voilà. Déjà, là, on va rétablir une certaine forme de justice. Voilà.
D'autres réponses?
Ouais, je l'ai un peu évoqué. Bon, aujourd'hui, il y a une sorte d'omerta où dans l'espace public, la sobriété, je l'ai dit, c'est un sujet un peu tabou. C'est un peu cette fuite en avant vers la croissance infinie du trafic. Mais à un moment donné, dans l'aviation comme dans d'autres domaines, il y a des couperets qui vont tomber. On l'a vu avec la limitation du trafic en Hollande. Il y a aussi également certains vols intérieurs. Alors c'est très limité aujourd'hui, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, les politiques vont devoir agir. Ils vont devoir dire, vu ce qui se passe en termes environnementaux, il va falloir faire quelque chose. En tout cas, nous, on va pousser pour que ce soit le cas. Donc d'aller vers une diversification pour compenser cette limitation, on va dire, cette baisse du trafic, puisque c'est ça qu'il va falloir faire. Et ça, il faut l'anticiper, en fait, parce que justement, il y a un contre-exemple qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est la filière de l'auto, où justement il y a Rodez, pour ceux qui savent, dans la région, Bosch, qui a vu la moitié de ses effectifs coupés sur le site de Bosch, qui faisait des injecteurs diesel. Le diesel, pourtant, c'était vu depuis longtemps, que la fin du diesel allait arriver et qu'il allait avoir un impact sur l'emploi. Il y a eu des propositions de reconversion de fait. L'entreprise n'a rien voulu savoir. Résultat, on est arrivé dans le mur. Les fonderies, c'est ceux qui font les parties de moteur là, pour l'automobile. C'est la même chose. La fin du thermique, il y a eu des projets proposés pour maintenir les fonderies, donc qui sont des sous-traitants des constructeurs automobiles. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ce que je disais tout à l'heure, ils ont délocalisé plutôt que de convertir l'appareil industriel.
Mais Maxime, pardon, est-ce que ça entraîne le grand public sur ces questions-là? C'est quand même très très technique. très industrielle. Enfin, si on
alors, je pense qu'il y a un axe qui est l'opinion publique, en effet, mais il y a un autre axe qui est les responsables politiques. C'est qu'eux, ils devraient se saisir de ça. Enfin, et nous, on essaye de le faire modestement, d'essayer de les alerter. Je pense que petit à petit, voilà, les conséquences du réchauffement climatique commencent à se voir. Du coup, après, c'est quel moyen ? Une fois que le politique se saisit de ces... par quel moyen ils vont réorienter un peu la filière ? C'est au travers de... d'incitations comme des aides, les aides financières, les subventions. Aujourd'hui, le problème, c'est que les aides, elles sont distribuées sans aucune conditionnalité, ni sur l'environnement, ni sur l'emploi. Donc, c'est des aides qui sont comme ça, dispensées, on ne sait pas trop à quoi elles servent, on ne connaît pas le montant d'ailleurs. Donc il y a des leviers à partir du moment, enfin il nous semble, hein, dans les réflexions qu'on a eues, que ce qui est central, finalement, c'est la décision politique. Qui peut réguler, qui peut orienter le versement des aides, mettre des conditions dessus. Et c'est ça qui, à un moment donné, qui peut investir. On parle de planification, mais c'est les enjeux climatiques sont réellement... C'est ça qu'il faudrait mettre en face. On a été capable de mettre des milliards hein, sur la table pour financer le chômage partiel dans plein de secteurs à cause du Covid. Le réchauffement climatique devrait mobiliser les mêmes moyens pour investir et pour un plan de relance qui lancerait la transition écologique.
Monsieur
AMD, ami du monde diplomatique. Dominique, est-ce que le trafic est indissolublement lié à l'industrie localement ? Est-ce que les Chinois, d'après ce que j'ai compris, ont acquis la possibilité de construire des aéronefs ? Quelle est la part des Chinois actuellement dans la fabrication des Airbus ou des pièces d'Airbus? Est-ce qu'on est capable d'évaluer industriellement le vrai risque de délocalisation qui pourrait peut-être arriver beaucoup plus vite qu'on peut le craindre? Est-ce qu'on a un carnet de commandes de 7000 avions? Oui. Mais fabriqué où et comment et avec quels capitaux? Sachant que dans un Airbus, il y a déjà la moitié de la valeur de l'Airbus qui est d'origine américaine.
Concret d'abord, un, c'est que le Comac 19, qui est comme ça qu'il s'appelle, le Comac qui vient de sortir, le premier avion chinois certifié, qui est le Tupolev d'Airbus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on parlait du Tupolev qui copie le Concorde. C'est une copie très largement inspirée de l'Airbus A320, vient de se voir certifier dissement uniquement pour voler en Chine. Hein, il n'a de certification que pour voler en Chine.
Avec des licences Airbus ou sans licence?
Actuellement, de toute façon, Airbus a ses propres lignes d'assemblage en Chine. D'accord? Le Comac, c'est chinois.
C'est deux choses hein, différentes.
Tout, c'est deux choses complètement différentes. Alors, quelle va être la montée en puissance des Chinois? Ce que j'ai lu comme information récente, c'est que d'abord, ils ont un énorme marché intérieur aujourd'hui, la Chine. Donc, les Comac vont servir à bord, dans un premier temps, à répondre à leur marché intérieur, à un rythme de production qui est loin d'être celui qu'on est capable d'avoir aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis en termes de fabrication d'avions, parce qu'ils sont en train de découvrir quelque chose qui ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un savoir-faire, on peut critiquer Airbus, je suis le premier à le faire, il y a un savoir-faire, et chez Boeing aussi, malgré leur déboire, il y a un savoir-faire que n'ont pas encore l'industrie chinoise. Et que, donc, de ce côté-là, il n'y a pas de menace encore réelle, à tel point que Airbus est en train d'annoncer l'ouverture d'une deuxième ligne de production en Chine. D'accord ? Donc, tout. Si on va plus loin maintenant de ça, de toute façon, le capital, par principe, il est international. Une entreprise comme Airbus, faut oublier que c'est autrefois, c'était la SNIA, c'est tout. Aujourd'hui, la part des États dans le capital d'Airbus est faible, elle est de l'ordre de 23%. Tout le reste, ce sont des capitaux flottants. D'accord ? Les capitaux flottants, le principe de base, c'est qu'ils vont là où ils peuvent flotter. Donc, si les conditions restent valables pour produire des avions à un taux de profitabilité intéressant en Europe, ils continueront à les produire en Europe. Si jamais le taux de profitabilité diminue en Europe pour des raisons multiples et diverses, ils iront les produire ailleurs. Et il faut intégrer un troisième larron dans l'histoire, c'est les équipementiers. Parce que Airbus, en fin de compte, aujourd'hui, c'est un assembleur. Autrefois, la FNIAF ou beaucoup d'avions, ils étaient quand même fabriqués des avions, hein, et tout. Aujourd'hui, on assemble des avions et tout, et les équipementiers ont pris un rôle extrêmement fort, parce qu'ils livrent des parties entières de l'avion, etc., ce qui fait que les choses sont pas, elles peuvent être totalement délocalisables, ce genre de choses. Donc on ne sait pas où on va dans le transport aérien, mais on va savoir assez vite où on va, parce que je crois, bah, c'est mon analyse, hein, et que certains partagent en partie, c'est que de toute façon, on va vers une limitation de la capacité à produire des avions, parce qu'on ne pourra pas les faire voler. Alors si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. On ne pourra pas les faire voler, je le disais tout à l'heure, parce qu'on n'aura pas les carburants pour les faire voler. On n'aura pas l'électricité pour fabriquer les carburants. L'hydrogène est un foutoir, c'est une arnaque, c'est un leurre. L'avion hydrogène va éviter forme de pilote combustible, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais et tout. Et pour faire voler les avions en là où ça peut se justifier encore, pour des vols transatlantiques ou transocéaniques, etc. De toute façon, l'hydrogène n'est pas la solution. Il n'y a que les SAF, les carburants durables, qui sont la solution. Or, dans le dernier rapport de RTE, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui vient de sortir, même RTE dit qu'on va avoir des très gros problèmes avec la biomasse, qu'on n'aura pas assez de biomasse pour répondre aux besoins de la transition écologique. Donc je ne vous dis pas de là à faire voler les avions avec huile de friture, on a pas mal d'années encore devant nous. Donc on est à court terme, à moyen terme, dans une impasse, hein, qu'on ne veuille pas. Voilà.
Monsieur
Pierre Bonneau, et avec Pascal, on est deux des quatre.
D'accord.
On fait, je dis.
Attaque.
Tu as attaque. Je voulais dire, au sujet de la décroissance, je crois qu'il y a une autre réponse qu'on peut faire. Ce n'est pas forcément mon choix, la décroissance. C'est simplement qu'éventuellement, il faut quand même faire preuve de réalisme. Si on veut remplacer un éventuel de tous les moteurs thermiques, tout ce qui marche avec du pétrole, par de l'électricité, il faut, pour remplacer ça, 3 à 4 fois plus d'électricité que ce qu'on produit à l'heure actuelle. Pour remplacer ça, si on rajoute celle d'aujourd'hui, ça fait 4 à 5 fois plus d'électricité. Or, à l'heure actuelle, l'électricité en France, on l'a fait avec des réacteurs nucléaires. Il y a 52 réacteurs nucléaires, mais il y a de l'électricité qui vient d'ailleurs. Donc, disons que c'est l'équivalent de 70-80 réacteurs nucléaires. Si on multiplie ça par 7, ça fait beaucoup de réacteurs nucléaires. Disons, ça fait des 300 réacteurs nucléaires. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, en France, dans l'espace d'une vingtaine d'années, de construire 300 réacteurs nucléaires? C'est ça le réalisme, nous semble-t-il. Alors, si on est capable, on peut se dire qu'on n'a pas besoin de la décroissance. Si on n'est pas capable, eh bien, on sera obligé de subir la décroissance. On peut dire, mais en France, on est très particulier avec notre choix nucléaire, mais je veux dire, dans tous les pays, se pose le même problème, que ce soit avec le nucléaire, mais c'est pareil pour l'éolien, le photovoltaïque et tout ça. Je veux dire, pour l'instant, on n'est pas capable, dans l'avenir, de produire suffisamment d'électricité pour faire face à tout ça. Et Pascal a raison quand il parle, par exemple, des carburants pour l'avion. On peut produire des carburants avec de l'électricité. Bon, pour l'instant, c'est pas gagné quand même, mais je veux dire, c'est pas tout à fait évident. Mais disons, on peut y arriver. Mais est-ce qu'on aura suffisamment d'électricité pour faire suffisamment de carburant, pour faire voler tous les avions qu'on a maintenant, faire marcher toutes les voitures, faire marcher les tracteurs, se chauffer, etc.
Non.
On se posait la question. Bon, la réponse du super-héros, par exemple, est très claire. La réponse, elle est non.
Ah, il y a deux dernières questions. Donc,
Plus qu'une question, c'est quand même. Moi, je m'interroge quand même beaucoup sur Airbus parce que c'est une société. Je vais te le redire. Je vais le créer, vous, des amis de la Terre, midi Pyrénées. Airbus, là, quand même, cette société, elle est entrée dans le 21e siècle, quand même, avec un projet magnifique qui était la 380. La 380, quand même, je vous le rappelle, c'est après moult batailles, hein, il a fallu quand même qu'il y ait une Vraiment, avec une convergence, c'est la politique extraordinaire entre Chirac, Jospin, Maldi ici, je ne sais plus qui était le maire de Toulouse, Keller, qui était évidemment salarié d'Airbus à l'époque, pour qu'on offre tous les hectares que l'on a offerts à Blagnac pour installer cette magnifique usine, détruire 500 arbres entre ici et Langon, construire une porte qui ne sert plus aujourd'hui derrière, etc., etc. Donc l'impact écologique d'Airbus à ce début du XXIe siècle, il est terrible. Alors, le truc qu'on nous a dit, et moi, là, ça m'espante, c'est que on allait avoir le plus gros avion, la plus grosse usine, et donc on allait être vraiment formidable. D'ailleurs, les Américains, ils n'étaient pas très malins, parce qu'ils ont arrêté le 747, allez, pour vous dire le truc. Donc, nous, on allait avoir le plus gros avion, et on pouvait répondre à la demande. On a vu le résultat. En 2008, l'usine commence à fonctionner, et en 2020, 12 ans après, elle arrête. Il n'y a plus de 380, et on se retrouve, entre guillemets, avec une friche industrielle qui, évidemment, on rebondit de suite, on construit dessus la 320 ou la 321, ou je ne sais plus lequel, ou le Néo, je ne sais plus lequel ils ont mis là-dedans, pour boucher les trous et dire qu'après tout, il n'y a eu aucun impact là-dedans. Moi, l'aveuglement de cette société, Airbus, moi, ça m'espante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une société qui est capable de dire qu'ils sont meilleurs que les autres, qui ont arrêté, qui fait un avion. Il n'y a aucun bilan qui est tiré de cet échec. C'est quand même un échec commercial terrible pour la société en question. Et c'était la deuxième question là-dessus, donc je me demande la confiance qu'on peut accorder aux dirigeants de cette entreprise. C'était la deuxième question qui était juste celle qui précédait. Aujourd'hui, on nous dit, on est en train de faire effectivement tout ce que vous avez expliqué sur le transfert, entre guillemets, de nos connaissances et de nos compétences vers les Chinois. Et moi, je me dis aujourd'hui, quelle est cette société? Donc, effectivement, avec les problèmes de capitaux, etc. Ils n'ont pas de frontières là-dessus, mais qui aujourd'hui est capable, entre guillemets, de transférer toute cette technologie et demain, ici, qui nous fera des friches industrielles. Je veux dire, enfin, moi, je me fais aucune illusion sur l'avenir de ce qui va se passer. De la même façon que Airbus n'a tiré aucun bilan de l'échec de la 380. Mmh. On aura le même type d'échec sur l'avenir. Alors, c'est ce que vous dites. Hein. On a l'exemple de l'automobile, etc. On pourra en citer d'autres, hein, dans le passé, l'industrie textile, etc. Le capital et le patronat n'ont aucun scrupule, et aucun scrupule à massacrer des gens, des ouvriers et du social. Et, en priorité, ça c'est ma conviction profonde, l'environnement. Parce que quand même, je reviens sur cette notion de route qui a été faite pour la 380. 500 platanes au tapis, des arbres qui avaient entre 40 et 100 ans. Évidemment, nous en arrêtons, on a dit qu'on allait remplanter, je ne sais pas combien, mais enfin bon, pour arriver à faire le même bilan carbone entre les arbres âgés et puis les arbres tout jeunes, avec tous les problèmes qu'il y a liés à l'environnement, merci.
Voilà. Pour 40 donc, à 50 ans.
Pour vous dire que là-dessus, je ne sais pas comment les décideurs aujourd'hui, enfin l'aveuglement qu'il y a et la confiance qu'on peut avoir de cette entreprise.
Alors, nouveau dirigeant d'Airbus depuis 3 ans, M. Faury, est-ce qu'il a une ambition européenne ou mondiale?
Nous, ce qu'on voit, c'est que, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est une entreprise qui est devenue normale. C'était le terme employé par notre ancien PDG, Tom Enders. Il s'est libéré un petit peu de la tutelle des États, même si aujourd'hui, comme tu l'as dit, Pascal, on a toujours les États qui sont à hauteur d'un quart dans le capital d'Airbus. Mais aujourd'hui, on est dans une recherche de la rentabilité à tout prix et de plus en plus importante. On est à 4 milliards de bénéfices nets après impôts, je le rappelle. C'est pas rien, quoi. Ça fait 2 années de suite. Donc aujourd'hui, on a ça d'un côté. Les salariés, la part de valeur qui va vers les salariés est de plus en plus réduite. Celle qui va dans les investissements, on parle d'avions verts. On voit les investissements. Alors là, ils ont augmenté un petit peu là cette année, enfin pardon l'an dernier, mais ça fait 3 années consécutives qu'ils baissent. C'est clairement une recherche de la rentabilité à tout prix à court terme. On n'a pas de nouvel avion dans les cartons. Hein. C'est des modifications de modèles existants. Il n'y a pas de rupture technologique qui a fait que
l'avion hydrogène.
Aujourd'hui, on n'y croit pas. Enfin, je veux dire, globalement, collectivement, aussi bien dans l'entreprise que... Enfin, je ne vais pas parler pour mes collègues, mais en tout cas, quand on regarde... C'est vrai qu'il y a beaucoup de communication autour de ça qui, pour nous, quelque part, permet de dire « Laissez-nous faire le business pour l'instant. Vous occupez... Enfin, vous inquiétez pas. Un avion vert va arriver. » C'est quelque part... Bon, c'est pour faire patienter et donner un alibi. En attendant, on vend des avions classiques, mais... En attendant que ce soit des avions verts, parce qu'il y a aussi le taux de conversion des flottes existantes, ça ne va pas se faire. Même si l'avion vert arrive en 2035, il va falloir quand même un certain temps pour que les avions classiques soient remplacés par des avions verts. Donc, vous voyez, c'est toute cette problématique-là qui pour nous, nous paraît incohérente. Oui.
Alors, dernière question.
Non, ouais. Je voulais juste dire qu'il y a vraiment une... C'est vrai, il y a une forme de déni. Hein, une forme de déni chez la plupart des dirigeants. Et en même temps, il y a le greenwashing. Donc ça montre qu'ils savent ce qui se passe quand même. Hein. Et on a ce discours de greenwashing avec l'avion décarboné, l'hydrogène, etc. Mais sans qu'on en voit vraiment encore les pistes. Enfin, les pistes.
Le mot de la fin, pour vous ? Enfin, pour la salle, en tout cas.
Moi, je suis Patrice Thébault, la CGT Airbus aussi. Je suis un camarade de Maxime aussi, sur la CGT Airbus. En fait, je voulais revenir sur la question, peut-être une réflexion sur la question de l'implication des salariés. Notamment, je réagis un peu à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur la question des salariés victimes, en fait, première victime. Je pense que ça c'est vraiment, à mon avis, enfin, un des nœuds du problème, en fait, parce que justement, je pense qu'il faut penser les salariés non pas comme victimes, mais comme acteurs en fait potentiels, comme acteurs potentiels dans cette. Je dis justement que je pense que c'est important d'essayer de transformer finalement des salariés qui sont présentés comme des potentielles victimes. Parce que à leur corps défendant, les salariés deviennent des alibis, en tout cas à travers leurs emplois, deviennent des alibis pour qu'on maintienne finalement une situation en statu quo. Et quelque part deviennent aussi ils sont instrumentalisés aussi par les directions d'entreprise et puis finalement par le système pour qu'ils perdurent dans son fonctionnement. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour transformer des salariés potentiels victimes en acteurs pour qu'ils deviennent qu'ils prennent toute leur place dans le débat, etc. Ben, je crois qu'il y a un des leviers qui est extrêmement important, c'est la protection sociale, par exemple. C'est revendiquer des protections pour que justement ils soient protégés. En tout cas nous en tant qu'organisation syndicale, c'est aussi ce qu'on porte aussi, c'est de développer des droits aussi pour les salariés, pour qu'ils puissent être protégés d'une certaine manière des décisions qui seront prises, des décisions brutales qui pourraient être prises demain par soit des décisions politiques ou par des décisions d'entreprise, etc., qu'on vit déjà aujourd'hui, hein, sur les questions de délocalisation. Maxime en a parlé dans l'automobile, par exemple, etc. Donc, ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants au niveau syndical et qu'il faut qu'il y ait des relais aussi politiques pour qu'ils portent aussi ça, pour que justement les salariés deviennent vraiment acteurs dans les entreprises, puissent être un vrai contre-pouvoir aussi. Et je crois que c'est aussi ce genre de réflexion qu'il faudrait aussi développer plus et mettre plus en avant. Les salariés, ils sont salariés, mais ils sont aussi citoyens aussi à l'extérieur. Et donc pour sortir de ce que Bruno a dit tout à l'heure, la dissonance cognitive qu'on peut ressentir entre notre vie de citoyen, puisqu'on peut vivre dans l'entreprise, parce qu'on a besoin de travailler pour pouvoir manger, hein, tout simplement. Donc il faut essayer de développer aussi ce genre de dispositif-là, il me semble.
Merci beaucoup, Pascal.
Ouais,
à la fin.
C'est moi qui vais conclure. Il est, vous avez vu, il est 11h05, donc c'est bon. Avant de conclure, je conclue en disant une chose. À ma droite, vous avez Gaël Cherez, c'est Médiacité. On peut vous dire, nous, d'expérience, qu'à Toulouse, on parlait de la chape de plomb, hein, de l'aéronautique sur la ville. Il y a la chape de plomb qui s'appelle la dépêche du midi aussi. Franchement, je dis avec attention la dépêche du midi parce que c'est le seul canard quotidien local. Je dis avec attention en particulier la rubrique aéronautique, quand on lit la rubrique aéronautique de la dépêche, on a l'impression que le journaliste, je vais pas dire son nom, ça me démange, est employé par le service de communication d'Airbus. C'est clair, oui, Gilles Bousquet, on peut le dire. C'est très impressionnant. Il faut vraiment se battre pour chercher de temps en temps un petit bout de truc qui permettrait de penser que tout n'est pas exact dans ce que dit Airbus. Mais franchement, et tout. Et donc, pour ça, on a besoin de contre-informations ou de gens qui font leur boulot vraiment. Médiacité en fait partie. Alors, Médiacité ne vit que grâce à ses abonnements. Hein, d'accord ? Donc, abonnez-vous à Médiacité. En plus, c'est déductible de vos impôts pour ceux qui en payent. Donc vous avez tort et ce partenariat qu'on veut, c'est aussi pour permettre à des journalistes indépendants et tout de pouvoir nous aider à porter un regard différent sur notre ville, pas uniquement à nous mais aussi aux gens qui sont autour de nous à qui on peut parler de ce qu'on lit dans la Médiacité. Donc je vous engage fortement à taper Médiacité demain ou ce soir sur votre ordinateur et à vous abonner en bénéficiant de la défiscalisation. Je dis, je fais ton boulot, mais ça me paraissait normal de le faire.
Alors, pense à vos noms, mais vous pouvez faire un don et le dire.
Ouais, vous débrouillez, mais enfin, bon, voilà. Donc, maintenant, voilà, on va clore cette soirée. Je vous remercie, vous avez été très attentifs. On reparlera inévitablement d'aéronautique dans les mois et les années qui viennent, c'est incontournable. On vous engage à lire tous les textes, je vous engage à aller en particulier sur les différents sites. Alors il y a le site aérodemain.org, hein, qui est le site du PAD. Allez-y, il y a sur le site du PAD beaucoup des textes qu'on a publiés, beaucoup des communiqués. Tout, les vidéos des assises du temps qu'on a tenues. On avait fait des assises qui avaient été mixtes entre Paris et Toulouse, hein, les assises de l'aérien. Donc vous trouverez une mine d'informations. Et puis, essayez autour de vous de discuter avec les gens, de prendre le pouls. Vous savez, le truc, parce que j'aime bien le terme des filiophages qui est utilisé souvent, mais qui là, je trouve spécialement vrai. Je crois qu'aujourd'hui, on voit l'émergence de signaux faibles sur le début d'une réflexion sur ce sujet-là. Et c'est de notre devoir de citoyen qu'à Toulouse de s'emparer de la problématique de l'aéronautique et de son devenir. Au même titre que, je ne sais pas, si on habitait à Sochaux, problématique de, on se préoccuperait de l'aéronautique, de l'automobile, ou si on était à Saint-Nazaire, on se préoccuperait des paquebots de croisière, quoi. Donc je pense que c'est aberrant qu'à Toulouse, on ne soit pas plus mobilisé autour de cette question-là qui vraiment, notre vie collective en dépend, aujourd'hui, du devenir de l'aéronautique. Souvenez-vous du pastel, hein, pour ceux qui ont un peu de connaissances historiques. Le pastel a fait la fortune de Toulouse pendant quelques dizaines d'années, extraordinaire. Puis du jour au lendemain, en quelques années, le pastel a disparu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les nouveaux... les nouvelles teintures, etc., et l'arrivée de la chimie. Et là où Toulouse était une ville rayonnante, riche et tout, qui avait des immeubles Renaissance partout, en quelques années, la ville s'est complètement effondrée. Personne, je pense que dans les gens, quand ils étaient dans le pastel à l'époque, ne pensait pas à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, à Toulouse, on est un peu dans une situation identique. Alors, comparaison n'est pas raison, bien évidemment, mais il y a des analogies à faire. Et je pense que la gueule de bois peut être très dure à Toulouse dans les années qui viennent. Donc, discutons-en autour de nous, dans nos entreprises, dans nos syndicats, dans nos réseaux amicaux. Et puis, tâtez le terrain avec vos amis qui travaillent dans l'aéronautique. On a tous des potes qui travaillent dans l'aéro, qui travaillent chez les sous-traitants. Discutez-en. Vous apercevrez quand même que le discours sur l'avion hydrogène qui va tout changer, que c'est magnifique, c'est extraordinaire, que c'est tout, c'est un leurre d'Airbus, parce que même les salariés, même les gens qui y travaillent, n'y croient pas à la capacité à ce que ce truc-là soit véritablement opérationnel. Ils en connaissent déjà les limites. Mais pendant ça, là, ils actionnent la pompe à subvention à coût de centaines de millions. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Même audio, une mémoire sonore.